Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés du média suivant, Paraquad. Au programme, la représentation des personnes en situation de handicap dans les médias. Et fâché. Bonne écoute.
La représentation des personnes en situation de handicap dans les médias. Un texte de Amélie Tremblay paru dans le numéro 157 à l'été 2022 du magazine Paraquad. Que pensez-vous de la place des personnes en situation de handicap dans les médias? Voici la question que j'ai posée à quatre membres de la communauté médiatique qui sont eux-mêmes en situation de handicap. La réponse fut unanime. Les personnes handicapées sont sous-représentées par rapport à leur pourcentage dans la population. En effet, selon les statistiques qui varient selon ce que l'on inclut ou non comme handicap, entre 15 et 20 de la société vivrait avec un handicap. Or, personne ne peut affirmer qu'une personne sur cinq est en situation de handicap dans les médias. Au contraire, les exemples sont rares et souvent malhabiles. Voici un rapide tour d'horizon de ce que pensent nos quatre invités sur la question. Selon François Beauregard, chroniqueur et président du conseil d'administration d'Accessible Média Incorporé, on a fait un grand pas en avant cette année lors de la remise des Oscars. En effet, le prix du meilleur rôle de soutien a été remis à Troy Kotsur pour sa prestation dans le film « Coda ». L'acteur qui joue un personnage sourd vit lui-même avec ce handicap et a réussi à porter à l'écran un rôle qui a convaincu tout le monde de son talent. Pour François Beauregard, le problème de la représentation du handicap dans les médias réside dans le nombre, mais aussi dans la façon de présenter le handicap. Trop souvent, on voit une dichotomie. D'un côté, nous avons la super personne handicapée qui fait preuve d'un immense courage et qui réalise de grandes choses. De l'autre, on retrouve la personne handicapée qui suscite la pitié, qui est faible et qui a besoin d'être protégée. Or, la réalité est tout autre. La majorité des personnes en situation de handicap ne sont ni des héros ni des victimes, mais bien simplement des êtres humains qui sont des employés, des parents, des amis. Bref, des gens qui ont un quotidien et des histoires qui, le plus souvent, ne tournent pas autour de leur handicap. François Beauregard rêve du jour où l'on représentera les personnes handicapées sans mettre le handicap au centre de leur vie. Comment remédier à cette situation? Avons-nous demandé à François Beauregard? Selon lui, il faut que l'idéation soit faite par des personnes elles-mêmes en situation de handicap. Trop souvent, les rôles sont écrits par des gens valides et joués par des gens valides. Pourtant, qui serait mieux placé qu'une personne handicapée pour créer un rôle de personne handicapée? Pour Chantal Petitclerc, sénatrice et athlète paralympique à la retraite, l'invisibilité des personnes en situation de handicap s'explique, entre autres, par la difficulté de la population handicapée à se rassembler pour faire bouger les choses. Plus je regarde la situation comme sénatrice, plus je vois que le lobby des personnes en situation de handicap travaille en silo et se concentre sur des priorités comme la lutte à la pauvreté. Elle remarque que les lobbies des personnes LGBTQ2S+ et des diversités ethniques sont beaucoup plus actifs en ce qui concerne la représentativité. Est-ce parce que les personnes handicapées sont moins organisées ou parce qu'elles se concentrent sur d'autres priorités? C'est difficile à évaluer. Cela dit, la sénatrice Petitclerc voit une grande amélioration dans les dernières années. Entre ses débuts comme athlète en 1988 et aujourd'hui, il y en a eu du chemin parcouru. Pour illustrer son propos, elle parle du personnage de Breaking Bad, une série qui met en scène un personnage ayant la paralysie cérébrale sans que l'intrigue ne tourne autour du handicap. Elle souligne aussi les personnages handicapés présents dans les célèbres bandes dessinées pour enfants « L'agent Jean », créées par l'artiste Alexa, qui mettent en scène un personnage amputé et un autre en fauteuil roulant sans que l'histoire soit directement liée à leur situation. Ces avancées, bien que rares pour l'instant, démontrent une ouverture et une volonté de changement. Chantal Petitclerc se rappelle de sa réalité après son accident. Une chance qu'on avait André Vigier pour s'identifier, parce qu'à part ça, il n'y avait pas grand-chose, raconte celle qui a été la première hôtesse en situation de handicap à animer les tirages de l'Auto-Québec en 1994. Ce geste audacieux avait d'ailleurs été très bien accueilli du public, prouvant que la population est parfois plus prête qu'on peut le croire à consommer des médias plus représentatifs de la réalité. Vous écoutez « La représentation des personnes en situation de handicap dans les médias », un texte d'Amélie Tremblay paru dans le numéro 157, été 2022, du magazine Paraquad. Kevin Breton, animateur et commentateur des derniers Jeux olympiques, est du même avis. Il n'y a pas suffisamment de personnes handicapées qui collaborent à la création de contenus médiatiques et ça se reflète sur l'écran. Soit leur absence se fait ressentir et nuit à la crédibilité du projet, soit elles sont présentes en petite quantité dans des rôles définis et souvent stéréotypés. Pour que les choses avancent, il faut donner le crayon aux personnes en situation de handicap pour qu'ils créent eux-mêmes des personnages qui représentent la réalité. Selon Kevin Breton, le public est prêt pour une plus grande diversité à l'écran. Les téléspectateurs veulent seulement voir de la bonne télé. Ils veulent se reconnaître dans les personnages. Oui, mais à la base, ils veulent être émus, touchés, divertis. Donc ce n'est pas une question d'ouverture selon moi. Ils s'en fichent un peu que le personnage soit handicapé, s'il est drôle, touchant, authentique. Cela dit, Kevin Breton voit une amélioration même si elle est lente et insuffisante. Des géants comme Netflix mettent de plus en plus de personnes en situation de handicap à l'écran et ces personnages sont de plus en plus joués par des acteurs qui ont eux-mêmes un handicap. Cette avancée est non négligeable. Véronique Vézina, animatrice et directrice adjointe chez AeroP03, croit que la réponse à une meilleure représentativité passe par la formation aux personnes qui veulent travailler dans le milieu médiatique. En effet, de nombreuses écoles à vocation artistique sont encore physiquement inaccessibles aux personnes en situation de handicap. Ce serait, selon elle, l'une des raisons pour lesquelles les personnes handicapées sont sous-représentées dans les médias. La décision du CRTC d'imposer des quotas d'embauche lui semble une bonne occasion de mettre plus de personnes handicapées sur scène. Cela dit, il faut qu'il soit possible d'engager des personnes en situation de handicap. Pour l'instant, il arrive souvent que même en voulant faire un casting incluant des personnes handicapées, personne ne soit disponible pour jouer ces rôles. Pour Véronique Vézina, la clé se trouve vraiment dans la formation. S'il existait plus d'écoles ouvertes sur le handicap, adaptées et accessibles, il y aurait un plus grand bassin de personnes handicapées pour travailler devant et derrière l'écran. La représentation des personnes handicapées a fait du chemin depuis les années 80 et on voit de plus en plus de personnages handicapés sur nos écrans, à la radio, dans les livres, mais ceux-ci sont encore représentés de façon trop souvent caricaturale. Bien qu'il y ait des créations de plus en plus avant-gardistes, il reste une énorme place à combler pour que les personnes en situation de handicap puissent se sentir réellement représentées dans les médias. Pour ce faire, il faut que les personnes handicapées soient perçues comme des êtres à part entière et non des personnages dichotomiques qui frôlent la caricature. Les écoles de formation doivent également offrir des formations accessibles et adaptées et le lobby des personnes handicapées doit s'organiser autour de la question pour influencer la situation. Qu'attendons-nous pour aller de l'avant et mettre sur nos écrans, dans nos radios, nos livres et autres médias, des personnes handicapées auxquelles s'identifier est vraiment représentatif de la réalité? Espérons que le chemin qu'il reste à parcourir se fera vite et bien, et qu'on pourra bientôt s'attacher à des personnages qui vivent une réalité qui nous ressemble. C'était la représentation des personnes en situation de handicap dans les médias. Un texte d'Amélie Tremblay paru dans le numéro 157, été 2022, du magazine Paraquad.
Fâché, un texte de Marie-Blanche Rémillard, paru dans le numéro 159, hiver-printemps 2023, du magazine Paraquad. J'ai toujours voulu être une personne plutôt agréable à fréquenter, une personne le plus souvent en paix avec elle-même et avec la vie. Pour ce faire, j'ai essayé de ne pas faire durer trop longtemps les épisodes de braillage, de critiquaillage, de mécontentement et de bouderie. Je suis loin d'avoir toujours réussi. J'ai vécu des chapitres dépressifs, des temps de mélancolie et, périodiquement, des crises de colère. Le thème du présent paraquad me rejoint, non pas vraiment dans mon quotidien personnel, maintenant semé de petits plaisirs et de contacts agréables et ressourçants avec mes semblables. En ce début de 2023, j'en ai contre la société en général et principalement contre ceux qui gouvernent cette société depuis 40 ans. Loin de moi l'idée de prétendre que tout va mal. Je suis simplement effarée du peu d'avancées dans divers domaines, de la désorganisation des services et des malheureux reculs constatés. J'ai été militante avant de travailler au gouvernement. Au cours de ces quelques années, grâce aux compagnons et alliés, et en dépit des obstacles rencontrés, j'ai développé une vision relativement optimiste du potentiel de changement social au Québec. Je suis ensuite entrée au gouvernement. C'était une période d'ouverture propice à de tels changements. J'avais des camarades adorables et courageux. J'avais des gestionnaires qui me paraissaient être portés par une mission. C'était une période sacrément enthousiasmante. Madame Nicole Paré-Fabry et moi avons écrit les premières orientations ministérielles pour un continuum de services en déficience physique. Ce document avait bénéficié de très larges consultations et rien de ce qui y était prôné ne semblait impossible à réaliser. Je croyais sincèrement que tous les éléments de ce continuum allaient être complétés et que les pilotes de chaque type de service avaient compris que le temps de l'organisation en silo était révolu, que les clientèles aux prises avec des incapacités persistantes avaient besoin de continuité et qu'on allait s'organiser pour leur offrir une telle continuité. À cette période, l'idée de continuité et de réseautage des partenaires perçait dans tous les milieux, des services aux jeunes en difficulté jusqu'aux services aux personnes âgées en perte d'autonomie, en passant par la toxicomanie, la maladie mentale, la déficience intellectuelle, le spectre de l'autisme, les maladies chroniques, et j'en oublie. Eh bien, grâce aux demandes réitérées de l'association de personnes concernées, la première clientèle présentant une déficience physique pour laquelle les besoins furent formulés en termes de continuum fut celle des victimes de traumatismes à la moelle épinière. Les efforts conjugués de l'Association des paraplégiques, MEMO QC maintenant, des intervenants en traumatologie et en intégration sociale du ministère de la Santé et des Services sociaux et de la SAC, et de représentants des programmes concernés, débouchèrent sur un modèle de continuum de services dont l'efficacité avait été, de surcroît, attestée ailleurs dans le monde. À ce moment-là, nous prônions en premier lieu la création de centres d'expertise pour les blessés médulaires. la désignation des établissements hospitaliers et des centres de réadaptation appelés à être les seuls à recevoir les blessés médulaires à la suite d'un trauma fut l'étape suivante. Pendant quelques années, le modèle fonctionna. Pour les gens de traumatologie, l'expérience prise avec la petite clientèle des blessés médulaires allait pouvoir se transférer à d'autres clientèles, telles les personnes ayant vécu un traumatisme crânio-cérébral, les grands brûlés, les victimes d'un accident vasculaire cérébral, etc. Nous étions plusieurs à nous douter que la partie du continuum de service se déroulant dans la communauté n'allait pas aisément suivre l'implantation des centres d'expertise. Les enjeux reliés à l'adaptation du logement, le soutien à domicile, la lutte contre l'isolement social, le travail et la formation allaient être plus difficiles à considérer en termes de continuum compte tenu de la multiplicité des acteurs en ces domaines. Et les arguments mettant de l'avant l'avantage de se servir du continuum pour les blessés médulaires comme projet pilote ne rencontraient pas l'assentiment recherché. Par la suite, à côté de la mise en place de mesures novatrices, on a pu constater un affaiblissement organisationnel progressif dû aux bouleversements successifs imposés au réseau de la santé. En 2023, plus de 40 ans après la promulgation de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées, 1978 révisée en 2004, on devrait être rendu plus loin. Cette loi ne disait pas tout, mais on comprenait bien ce qui devait en découler, non? Déjà, dans la politique d'ensemble, à part égale, il était évident qu'un plan de service devait inclure tout ce dont une personne handicapée allait avoir besoin au cours de sa vie. On comprenait que les différents services ou interventions requis devaient être intégrés et que, sans une continuité, il allait nécessairement y avoir des trous, des chaos susceptibles de faire régresser la situation de la personne et de sa famille. Et dans les domaines où la loi était moins explicite et où des mesures avaient dû être rajoutées, comme dans le cas des blessés médulaires, les problèmes de continuité et de développement de la qualité des services allaient être réglés pour toujours grâce, notamment, à l'évaluation périodique de la performance des centres d'expertise. Vous croyez? Non. Parce que les centres de réadaptation en déficience physique, copilotes du bon fonctionnement des 10 centres d'expertise, allaient être décapités, intégrés à de plus grands établissements à vocation multiple. Vous écoutez, fâché, un texte de Marie-Blanche Rémillard, paru dans le numéro 159, hiver-printemps 2023, du magazine Paraquad. Après cette dernière réforme, incluant la disparition des régies régionales de la santé, est-ce que quelqu'un au M3S ou ailleurs au gouvernement allait s'inquiéter du maintien et du développement des centres d'expertise et des autres éléments du continuum en déficience physique? À ma connaissance, non. Ce qui a subsisté de ces bons coups du système l'a été essentiellement par la volonté et le cœur à l'ouvrage des survivants, tant gestionnaires que professionnels. Et l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, INES, au cours de ses plus de 10 ans d'existence, n'a pas agi dans les domaines dans lesquels on nous avait assuré qu'il interviendrait, notamment en rapport avec les centres d'expertise, le statut d'institut de recherche et le suivi long terme que nécessitaient les personnes ayant une lésion à la moelle épinière. Sans un suivi à l'échelle provinciale pour nos services surspécialisés et suprarégionaux, pouvions-nous espérer une intervention plus intégrée de la part des centres de réadaptation régionaux, des services dispensés par les CLSC, etc.? Eh bien, sans prétendre avoir fait le tour du Québec, je pense que beaucoup de centres de réadaptation régionaux s'en sont tirés plutôt bien, selon leur degré d'implantation, selon la bienveillance des CIS à leur égard et selon le dynamisme de leurs équipes. Je prie pour que ma vision soit en accord avec la réalité. Par ailleurs, tout ce que j'entends dire sur les services de soutien à domicile me donne des brûlures d'estomac. Et il en est de même pour ce qui est de l'hébergement non institutionnel offert à ceux et celles qui, pour diverses raisons, se sentent mieux desservis en milieu de vie collectif. La pandémie, qui n'a pas dit son dernier mot, nous a montré à quel point le réseau des CHSLD et des ressources intermédiaires n'était pas prêt à desservir les personnes âgées qui leur avaient été confiées. Et, comme si le virus n'était pas un ennemi suffisamment dangereux, on a vu être clairement révélé le manque de personnel, notamment chez les préposés. D'une offre de services de soutien à domicile passablement hétérogène, d'un recours assez disparate à diverses formules, agences, chèques allocation-service, organismes à but non lucratif, etc., et à différentes échelles de rémunération, les usagers vivant à domicile, seuls ou non, ont été pris dans un genre de tsunami dont la plupart sont ressortis indemnes. Il s'en est fallu de peu. Mais qui s'est inquiété, par exemple, des tétraplégiques non pourvus d'un agent payeur? Comment a-t-on pensé qu'ils pouvaient faire face à la perte de leur préposé attiré ailleurs par une rémunération pas mal plus généreuse? Est-ce qu'on ne savait pas depuis longtemps que les services aux lésés médulaires dispensés par les employés d'OBNL de soutien à domicile gagnaient plus pour donner des services d'aide domestique que ceux qui dispensaient des soins personnels dans le cadre de l'allocation directe? On ne peut mettre toute la faute sur la pandémie. Tous les pays touchés en ont ressenti les contre-coups. Mais il existait déjà ici un degré de désorganisation dans certains segments du réseau de la santé, comme dans d'autres réseaux, j'imagine. Je repense au comité de travail, au projet pilote, aux démarches visant à créer des systèmes d'information bien adaptés aux services à long terme, de consultation, de rédaction d'une foule de documents, aux formations, à tout le temps qu'ont investi nos représentants, amis et partenaires dans des travaux qui ont parfois débouché sur des améliorations notables, mais qui souvent ont été sabordés par des changements de gouvernement, de structure, de responsables. Et j'ai de la peine et de la colère en y pensant. Est-ce le propre des organisations de services publics que de ne pouvoir garder vivant leur bon coup? Une fois qu'on a constaté qu'à plusieurs égards, la vie pour nos membres est plus ardue en 2023 qu'elle ne l'était il y a 15 ou 20 ans, comment ne pas se sentir déçu et fâché? Le manque de personnel est terrible pour les restaurateurs, les agriculteurs et les résidences privées de personnes âgées, mais combien plus angoissant pour les personnes handicapées vivant à domicile? Comment se fait-il, par exemple, que les difficultés chroniques de recrutement de préposés n'aient pas fait plutôt l'objet d'un vigoureux redressement? Je relis à l'occasion des pages du « À part égale » du début des années 1980 et je remercie Patrick Fougeil-Rolla et son équipe d'avoir produit, que dis-je, ciselé un document qui traverse aussi bien le temps, qui tient encore la route et peut encore servir de guide pour nos actions futures. J'ai personnellement perdu beaucoup de ma naïveté et je constate combien d'énergie une organisation comme MemoQC a dépensé en défense des droits au cours des dernières années. Les droits individuels, on y arrive tant bien que mal. Mais en matière de droits collectifs, les démarches sont si longues et si compliquées. Et les résultats sont mitigés en cette matière. Peut-on relâcher la pression, se dire qu'on ne peut être partout, sur tous les forums? Peut-on? Je dis que non. Nous sommes les garants du continuum de service, nous sommes ceux qui sentons dans nos tripes le type d'organisation et d'engagement à atteindre. Note : ce texte a été rédigé sous le coup de l'émotion et sans document à l'appui sous la main. Je sais qu'il y a eu et qu'il y a encore des gens incroyablement compétents et généreux dans les réseaux de services destinés aux personnes ayant des incapacités et susceptibles de faire face à des situations de handicap. Je les remercie du fond du cœur. C'était « Fâché », un texte de Marie-Blanche Rémillard, paru dans le numéro 159, hiver-printemps 2023, du magazine Paraquad.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canalem à l'adresse canalem.visezvoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Lynne Lamarche à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.